Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce premier hors-série de Rétrovision consacré uniquement aux jeux d'arcade. Alors bien sûr, qui dit hors-série dit émission spéciale. Nous n'aurons pas les tests de Flipper ni de démo Amiga, ainsi que toutes les autres chroniques habituelles. Et pour commencer en beauté, ce 100% arcade, voici un jeu que vous connaissez bien, Puzzle Bobble, sorti en 1994 par l'éditeur légendaire Taito. Ce jeu d'arcade, mignon comme tout, a pour principe d'envoyer des bulles colorées sur une aire de jeu pour faire éclater celles qui s'y trouvent déjà. Bien entendu, il faut les aligner 3 par 3 et qu'elles soient de la même couleur. Pour corser un peu les choses, le plafond se mettra à descendre petit à petit et le jeu prendra de la vitesse. Ce sont les deux petits dragons du jeu Bubble Bobble qui envoient les bulles après avoir choisi par vous-même la trajectoire du tir. Il est possible de jouer à deux en même temps, dans un mode versus particulièrement amusant, où il faudra détruire un maximum de bulles pour les voir apparaître du côté de votre adversaire. Une bonne technique pour bien faire le ménage est de faire éclater les boules qui servent de support, celles qui sont au plus haut de l'écran, et vous verrez que toutes les bulles inférieures vont tomber. Puzzle Bobble fait partie de ces jeux simples, terriblement prenants, avec une prise en main rapide et un plaisir de jouer immédiat. Tout comme Bomberman, l'intérêt du jeu est décuplé lorsque vous êtes confronté à un autre joueur. Puzzle Bobble est un grand classique des salles de jeu qui a été adapté sur presque toutes les consoles et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Premier jeu de la série des Super Sidekicks, qui compte deux suites en totalité. First game. Mexico versus England. Kick off. Dans ce jeu d'arcade pur où l'action prend le dessus sur le côté stratégique, un bon tir bien cadré est souvent plus efficace qu'un 1-2 trop précipité. La difficulté est assez corsée et l'adversaire, surtout si vous jouez contre l'ordinateur, ne vous fera pas de cadeau. Alors il vaut mieux ne pas perdre trop souvent le ballon. Kick off. Toutes les règles du football sont là. Corner, coup franc, carton jaune et en cas d'égalité, c'est directement l'épreuve des pénalties qui vous attend. Les joueurs avec la mention Ace au-dessus de leur tête sont ce que l'on pourrait appeler des joueurs stars. Et il vaut mieux leur passer le ballon le plus souvent pour espérer marquer un but. Kick off. Super Sidekick aurait pu être une référence encore aujourd'hui. Mais il a juste comblé les amateurs de salles de jeu à la longue. Les matchs devenaient vite répétitifs car l'action était limitée et il était dur de marquer un but autrement qu'en frappant le ballon que le gardien venait de relâcher. De plus, la vue de côté, pas assez plongeante, manque de perspective. C'est bien dommage. Mais il ne faut pas en vouloir à SNK qui, même si les jeux de foot ne sont pas leur tasse de thé, nous a gratifié de superbes jeux dans un tas d'autres styles. Shadow Dancer sur arcade, sorti en 1989 par Sega, est la suite directe de Shinobi, sorti 2 ans plus tôt. Ce jeu de plateforme action ressemble à son prédécesseur. L'objectif reste le même, démanteler un réseau de terroristes, sauf que cette fois-ci, ce sont des bombes qu'il faut désamorcer. Les armes non plus n'ont pas changé, on utilise toujours les bons vieux shurikens ainsi qu'un katana pour les coups de près. Et les stages bonus ont le même principe, il y a juste les décors qui changent. Les petits plus qui ont été apportés sont incontestablement la coalition avec un chien loup et les animations lorsque vous utilisez la magie ninja. Le toutou du héros Joe Musashi vous sera fort utile. À certains passages très délicats, celui-ci foncera sur les adversaires qui se trouvent le plus proche de lui. Cette notion de jeu en équipe renforce l'intérêt des parties. Vous pouvez déclencher l'attaque du chien en faisant diagonale, bas, droite et tir. Mais attention à ne pas laisser votre animal de compagnie trop longtemps seul avec l'ennemi. Sinon, il sera réduit à la taille d'un chihuahua et il faudra attendre quelques secondes pour qu'il retrouve sa taille normale. Pour la réalisation technique, c'est du tout bon. Sega a bien exploité le système 16 avec des décors détaillés et des niveaux bien conçus. Les musiques sont pas mal non plus, mais restent vraiment moins envoûtantes et mélodieuses que le premier Shinobi. Le point le plus ennuyeux reste, comme le premier Shinobi, la difficulté pour avancer dans le jeu. Le moindre impact vous ramènera directement au début du stage. Shadow Dancer reste un bon jeu de plateforme action, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus d'améliorations et de nouveautés par rapport au premier, qui est selon moi la référence absolue. World Heroes 1 sur Neo Geo sorti en 1992 est un jeu de combat à 1 contre 1 signé Alpha Denshi. Ce premier épisode de la série des World Heroes était, lors de sa sortie, considéré comme l'un des meilleurs jeux de combat. Mais il perdit rapidement ce titre après la création de Fatal Fury 2 et Samurai Showdown. Le scénario est simple, un savant veut organiser un tournoi d'arts martiaux en réunissant les plus grands combattants du monde. Mais ce qui frappe au moment de choisir l'un des 8 combattants, ce sont les clichés dont ils sont catalogués. Nous avons par exemple Jeanne, la femme chevalier venue de France, sans doute une descendante de Jeanne d'Arc, Dragon, encore un énième petit cousin de Bruce Lee, M-Power, un admirateur d'Hulk Hogan qui devait regarder les superstars du catch, Rasputin, qui vient bien évidemment de Russie, et le personnage que seuls les Japonais peuvent caricaturer, Broken, un cyborg qui a l'allure vestimentaire d'un haut gradé nazi. Ce personnage n'est pas sans rappeler Broken Man Jr., un lutteur allemand qui était l'un des personnages du dessin animé Muscle Man, ce qui a valu l'arrêt pur et simple de sa diffusion au Club Dorothée et sur AB1. Mais revenons à l'aspect technique de World Heroes, qui propose deux modes de jeu. Normal, où il faudra affronter les 7 autres combattants un par un dans leur pays respectif, en gagnant 2 manches. Et le deuxième, Death Match, où vous pouvez fracasser votre adversaire dans un ring rempli de pièges, comme des mines, des murs hérissés de pointes, des barreaux enflammés ou électrifiés. Côté technique, on reste sur sa fin. Malgré la grosseur des sprites, l'animation est un peu trop lourde. Les coups spéciaux sont originaux sans être spectaculaires et les personnages, malgré tout leurs stéréotypes, ont le mérite d'être original. World Heroes est plutôt réservé aux novices des versus fighting qui apprécieront la simplicité du gameplay et des coups spéciaux et qui ne seront pas pris de vitesse par des enchaînements hallucinants comme dans ceux des King of Fighters par exemple. On continue ce hors-série 100% arcade avec un petit jeu de voiture sans scrolling à vue de dessus, Off-Road, ou plutôt Iron Man Evan Stewart's Off-Road. Off-Road est un jeu que pratiquement tout le monde connaît puisqu'il a été adapté sur tous les supports possibles et imaginables. Dans la version arcade, il est possible de jouer à 4 joueurs en même temps, sur la même borne, chacun ayant son propre volant. Le but du jeu est de terminer les 4 tours de piste en première position, tout en essayant de ramasser les divers objets parsemés sur le circuit, comme des bourses d'argent ou de la nitro, qui permet de donner des grands coups d'accélération. Lorsque vous finissez une course, un petit passage au stand vous permet d'améliorer le rendement de votre 4x4, pneus, suspension, moteur, nitro, etc. avec l'argent que vous aurez récolté. Pour un jeu datant de 1989, le développeur American Leyland s'est contenté du minimum. On ne peut pas dire que les graphismes soient de toute beauté. Les musiques sont répétitives et les bruitages inexistants. De plus, les circuits sont hyper limités et le jeu tourne en rond. Autrement dit, il n'y a pas de fin. Mais pourtant, le fun est au rendez-vous, surtout si vous performez avec une bande de copains ou de copines à grands coups de pare-chocs, tout en prenant soin d'éviter les énormes boss, meat pool et toutes sortes d'obstacles. Off-Road est donc un jeu sur lequel on ne reste pas scotché pendant des heures. Le fait de refaire les mêmes circuits en sens inverse devient très vite ennuyeux. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir une référence dans les jeux de voiture 4x4 en vue de dessus. Demon's World de Topland, sorti en 1989, aussi connu sous le nom d'Horror Story, est un gentil jeu de plateforme shooter à 1 ou 2 joueurs. Le personnage que vous contrôlez ressemble à un Ghostbuster, à l'allure un peu beauf, mais disposant d'un canon tirant divers projectiles, rayons laser, bombes, missiles, blasters, etc. Lorsque les power-up apparaissent sur l'écran, il est possible de choisir son type d'armement. Pour faire un minimum de stratégie, il est déconseillé de choisir les bombes si vos ennemis flottent dans les airs. Il sera aussi bon de récolter les bonus symbolisés par un P, qui, au bout du troisième, vous donnera une combinaison de protection grise capable d'encaisser un coup. Il existe un autre moyen de dégommer vos ennemis en sautant directement sur leur tête, à la manière d'un certain Mario Bros, ainsi que de faire des doubles sauts bien pratiques pour attraper les ballons aériens. L'ambiance générale qui se dégage dans Demon's World ressemble à un Ghouls and Ghosts, avec une bonne touche de mythologie sino-japonaise. Il n'y a pas de coupure entre les différents stages. Vous progressez de manière linéaire avec un défilement automatique, ce qui est plutôt rare dans ce genre de jeu. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les designers de chez Templan s'y sont donnés à cœur joie pour donner aux ennemis une apparence originale et fidèle aux mythes et légendes asiatiques. Vous devez bien entendu livrer bataille avec un boss de fin de niveau, en adoptant une bonne stratégie et en utilisant l'arme la plus appropriée. La progression se fait facilement, il n'y a pas de passage insurmontable, surtout en mode 2 joueurs, où la coopération s'avère un très bon atout. Mais attention tout de même aux bousculades liées au défilement continu du scrolling, ou pour trouver un endroit sécuritaire contre les assauts ennemis. Et oui, nos deux chasseurs de fantômes ne peuvent pas occuper la même place sur l'écran. Demon's World est un jeu fort sympathique au graphisme soigné. La bande-son ne casse pas des briques, elle est même des fois un peu lassante, mais la jouabilité est excellente et l'idée d'incarner un chasseur de fantômes est très bonne. Il n'en faut pas moins pour nous donner envie de replonger dans ce jeu signé Topland. Attention tout le monde, voici un gros classique parmi les classiques, Space Harrier sur arcade, et encore développé par Sega, est un jeu de tir sorti en 1985, et oui, 1985, qui était très répandu dans les salles d'arcade sous trois types de bornes. Une classique où l'on joue debout, une autre comprenant un siège, et la dernière qui était carrément montée sur des vérins hydrauliques. L'auteur de cette merveille, qui n'est autre que Yu Suzuki, à qui l'on doit également Outrun, était vraiment en avance sur son temps. N'oublions pas que c'était en 1985. Le principe du damier précalculé et des sprites zoomés donne un effet de pseudo-3D carrément impressionnant pour l'époque. Les musiques très rythmées collent parfaitement à l'action. Peut-être aurez-vous reconnu le thème sonore de l'émission Mémoire Vive qui a été diffusée sur Game One. Il faudra souvent se balader dans les quatre coins de l'écran pour esquiver au mieux les salves de lasers ennemis. Et lorsque vous relâchez le joystick, le personnage revient se positionner au milieu. Space Harrier est un jeu d'arcade pur et dur qui mettait les nerfs des joueurs à rude épreuve. Et même 23 ans après, certains rétro gamers sont toujours autant charmés par cet univers fantaisiste et merveilleux de la Fantasy Zone. Et voici un autre jeu de baston à 1 contre 1, ou plutôt 2 contre 2. Il s'agit de The Killing Blade, sorti en 1998, développé par IGS sur le système PGM, qui sont les initiales de Polygame Master. Et comme vous pouvez le voir, le PGM en a dans le ventre. Certes, le nombre de jeux se compte sur les doigts de la main, mais la qualité est au rendez-vous. The Killing Blade est de facture classique, mais un soin très particulier a été apporté au niveau des graphismes et de la jouabilité qui se rapproche plus du Capcom System Play 2 que du SNK. Il est possible de changer de combattant en cours de partie en appuyant simultanément sur les touches A et D. La première chose qui frappe, ce sont les personnages, superbement détaillés, inspirés par la mythologie chinoise. Les décors sont magnifiques, les effets visuels vous donnent le tournis, c'est un pur bonheur de pouvoir balancer des attaques spéciales sur votre adversaire. Encore faut-il y arriver. La musique ainsi que les effets sonores sont dynamiques et percutants, ce qui est indispensable pour ce genre de jeu. Durant la partie, une combinaison d'enchaînements sera affichée en bas de l'écran, ce qui est très pratique, d'autant plus que si vous la réussissez, vous pouvez afficher une bonne dizaine d'attaques sur votre adversaire, si celui-ci, bien sûr, ne l'a pas esquivé. The Killing Blade est un jeu qui m'a agréablement surpris de par sa finesse graphique et son gameplay. Et l'on ne reste pas insensible au charme des personnages inspirés des contes et légendes typiquement asiatiques.